masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Stéphane Hartmans avec Cécile Bidot.
Vous êtes écrivain, l'un des plus célèbres auteurs belges. Vous écrivez en langue néerlandaise, votre langue. Un certain nombre de vos œuvres sont traduites en français, notamment vos romans. Guerre et térébenthine, qui vous a fait connaître dans le monde entier en 2015. Le cœur converti en 2018. Une ascension parue chez Gallimard l'an dernier. Mais vous produisez également du théâtre, des essais, de la poésie. Et justement, vos premiers écrits de jeunesse, ce sont des poèmes. Pourquoi avoir choisi cette forme en particulier pour sa concision, sa musicalité, sa liberté?
Bonsoir. Non, je pense que quand on est très jeune et on commence à écrire de la poésie, c'est dans l'ordre des choses.
Vous aviez quel âge?
Bon, voilà, je pense que j'avais 13 ou 14 ans et je me rappelais, il y a seulement quelques jours, j'avais la même question dans la bibliothèque de Gand. Et là, je me rappelais que j'ai commencé à noter des noms des bateaux qui passaient sur l'Escaut, parce que j'ai passé ma jeunesse sur les bords de l'Escaut, pas trop loin de Gand, ma ville natale, et que j'ai commencé à noter les noms des bateaux qui passaient. Le matin, ils étaient profonds dans l'eau, parce qu'ils étaient bien chargés, ils étaient au port de Gand, et les soirées, ils passaient de nouveau, ils étaient légers et très hauts sur l'eau. Et j'ai commencé à écrire ces impressions, et je crois que c'est le premier souvenir que j'ai encore. Le souvenir le plus lointain du moment que j'ai commencé à écrire et en fait d'observer les choses.
C'est avant tout une image et ensuite vous décrivez cette image.
Oui, oui, absolument. Cela veut dire que je n'ai pas entamé l'écriture par une sorte de besoin psychologique ou de besoin d'écrire sur les intimités, mais le besoin d'écrire sur ce que j'observais. Et pas plus tard, à l'école, évidemment, on lisait les grands poètes néerlandophones, flamands et hollandais. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. Et à un certain moment, j'ai publié un poème dans une sorte de cahier de l'école, voilà. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait un professeur qui entrait et disait « Mesdames et messieurs, on a un poète entre nous ». Et j'étais complètement gêné, j'avais de la honte incroyable. Et à ce moment-là, je me sentais pour la première fois seul. Parce que je faisais quelque chose que les autres trouvaient un peu rigolo, quoi.
Et aujourd'hui, si je vous dis, on a un poète parmi nous, comment vous réagissez?
On assume le fait qu'on est appelé poète, mais je crois que si on veut écrire des bons poèmes, il faut pas trop penser d'être poète. Il faut se concentrer sur la langue, il faut se concentrer sur ce qu'on veut dire. Parce que je considère la poésie comme cet aspect de la langue qui nous permet de concentrer le plus toutes les possibilités de la langue. Ça veut dire que j'ai toujours considéré la poésie comme une façon de s'exprimer dans une langue qui approche la philosophie aussi bien. Tandis qu'évidemment, c'est aussi bien intime, c'est très personnel à un certain moment. C'est une sorte de musique dans ton âme, pour ainsi dire. Et il faut bien écouter ton intérieur pour écrire la poésie. Tandis que la prose, évidemment, ça vous met dans le monde. Vous êtes là, l'être social qui parle. Mais je crois que la poésie, en fait, ça reste le plus personnel, ouais.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le poète a envie de devenir romancier? Est-ce que vous vous sentiez à l'étroit? Vous aviez envie d'explorer autre chose, raconter autre chose?
Je me rappelle que j'ai commencé à noter des choses et de faire une sorte de tenir un journal de bord quand j'étais à l'université et que je voulais faire des commentaires sur ce que je lisais, etc. Et j'ai eu l'opportunité d'écrire sans publier pendant 10 ans, parce que je voulais absolument pas publier.
Vous étiez enseignant?
À ce moment-là, j'étais encore à l'université. Et puis, j'ai été enseignant de très jeune âge. J'avais terminé l'université à mes 22 ans. Ça veut dire que j'étais un prof très jeune. Et les soirées, je notais des choses. Et je me rappelle cette période dans laquelle j'écrivais sans publier, comme la période la plus heureuse de ma vie, parce que je n'avais aucun souci. Je me rappelle que mon père amenait des chemins de fer où il travaillait, des grands tas de papiers, des vieux papiers, et sur les versos je pouvais écrire. J'ai écrit des milliers de pages avant qu'un ami à moi qui a lu quelques pages et m'a dit « mais tu dois publier ». J'ai dit « non, je ne vais pas parce que je ne vais pas gâcher mon bonheur ». Alors ça a duré jusqu'à mes 31 ans, avant que j'ai osé publier un livre, qui était une sorte de combinaison de les influences du nouveau roman qu'on avait étudié à l'université, une sorte de journal de bord, voilà, qui était le premier, qui n'a jamais été traduit.
Et encore aujourd'hui, vous diriez que l'écrivain le plus libre serait celui qui ne publie pas ?
Je crois bien. Je crois bien que là, l'acte d'écrire reste purement existentiel. Et on est confronté à soi-même. C'est une sorte de psychanalyse gratuite qu'on peut réaliser soi-même à la maison. Parce que le moment que vous commencez à écrire, vous changez la langue. Le moment que vous pensez et que vous êtes en train de penser sans noter, vous pensez d'une façon tout à fait différente que du moment que vous commencez à laisser marcher votre main. Moi, je dis toujours, c'est la main qui pense quand vous écrivez. Parce qu'il y a un autre rythme, il y a la syntaxe qui change. Et voilà que l'acte d'écrire peut libérer quelqu'un, oui, sans doute.
Quand vous écrivez, vous qui semblez être aussi à l'aise avec la poésie, l'essai, le théâtre, le roman, qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme plutôt qu'une autre ? Ou est-ce qu'il y en a une qui vous semble plus noble que les autres ?
Je crois que la poésie reste le plus concentré, comme je viens de dire, et le plus philosophique. Mais en même temps, je crois que dans mon laboratoire, pour ainsi dire, les genres n'ont pas beaucoup d'importance. Je pouvais entamer à écrire une page dans laquelle j'étais en train de réfléchir sur quelque chose et ça résultait dans une anecdote ou une histoire. Et il faut laisser décider la langue aussi bien et le dynamisme de ce que vous êtes en train de raconter. Et à certains moments, je décidais, bon, peut-être ça c'est quelque chose pour un essai ou apparemment ça veut être une histoire ou une nouvelle.
D'accord, vous ne vous dites pas, aujourd'hui j'écris plutôt un essai ou là j'ai envie de théâtre.
C'est oui, je peux le faire. Oui, mon théâtre a toujours été en commande. Je n'écris pas les textes de théâtre par impulsion, mais parce qu'on m'invite d'écrire pour le théâtre. Tandis qu'évidemment, les romans, les essais, la poésie, pour moi, sont très proches l'un de l'autre. Et je ne pense pas en genre littéraire quand j'écris. Mais le résultat est souvent un poème ou une base de prose, voilà.
Stéphane Hertmans, parlons un peu de vos romans, justement. Vous partez du réel, non seulement du réel, mais de faits qui vous concernent parfois, vous touchent de près ou de loin. Guerre et térébenthine, ce sont les carnets de votre grand-père Urbain. Le cœur converti, c'est l'histoire d'une femme au Moyen-Âge qui s'est réfugiée à Monieux, un village dans le Vaucluse où vous séjournez. Pour une ascension, vous avez découvert que la maison où vous aviez habité à Gand avait été celle d'un SS flamand. Est-ce que vous avez besoin d'être concerné pour écrire l'histoire ?
Pas du tout. Le moment que j'ai commencé à écrire le livre qui a fait le tour du monde, Guerre et térébenthine, je n'avais aucune intention d'écrire un roman dit historique ou historisant, comment il faut dire, parce que je me rendais compte que je ne pouvais pas évoquer le néerlandais archaïque de mon grand-père, le flamand, dans lequel il écrivait encore à l'époque, parce qu'il faut réaliser que le néerlandais est une langue qui s'adapte énormément, qui a été modernisée d'une façon très drastique les dernières décennies. C'est une langue très souple, qui donne beaucoup de liberté. Cela dit, le néerlandais de mon grand-père était complètement révolu. Il n'y avait pas de lecteur qui pouvait encore le lire, mais je voulais évoquer son histoire dans la Première Guerre mondiale, parce que je crois que c'est une histoire vraiment étonnante.
Il faut peut-être rappeler que ce sont ces carnets que vous aviez récupérés, que vous avez mis du temps d'ailleurs à ouvrir, où il raconte son histoire, et notamment sa vie dans les tranchées. Et donc vous l'avez réécrite en quelque sorte. Parfois c'est sa voix, et parfois c'est la vôtre.
Oui, voilà, j'ai inventé ce genre, qui est un genre un peu hybride, de raconter l'histoire, et en même temps, parce que vous avez dit que je pars du réel, mais qui part du réel part toujours de l'imaginaire, parce qu'il y a toujours une façon que vous imaginez le réel. Et voilà que là, je devais trouver une façon de rester loyal à mon grand-père, et en même temps l'évoquer dans un Irlandais moderne. Et là, j'avais cette prise de conscience presque. Comment est-ce que je peux rester fidèle à lui et en même temps le retravailler, le traduire dans un roman d'aujourd'hui? Et là, à un certain moment, j'ai décidé de rendre visible le narrateur et de faire du narrateur aussi un personnage. Le narrateur n'est pas omniscient, parce que le narrateur omniscient est toujours invisible. Il fait comme si lui, il est une sorte de dieu qui invente et qui a une certaine objectivité. Ce que je voulais faire, c'est rendre subjectif le point de vue du narrateur et laisser voir, écoutez, c'est mon grand-père, je l'ai connu et j'ai vu la tragédie de cet homme qui tombait dans un mutisme qui a duré presque 5 décennies et qui a entamé à écrire ses histoires 50 ans après la guerre. Et puis il a écrit 600 pages sans aucune rature pour parler d'un traumatisme. Quelqu'un qui avait toute cette histoire tellement pénible en lui, stocké pour ainsi dire, qui pouvait écrire sans rature. Ça m'a beaucoup ému, évidemment, le moment que j'ai lu, parce que j'ai reporté d'écrire ce livre, puisque j'ai été éduqué avec la tradition du modernisme à l'université, comme la littérature de Samuel Beckett, de James Joyce, voilà. J'avais pas envie d'écrire un roman historisant. Mais ça m'a poussé à le faire. Et puis, évidemment, au moment que j'ai commencé à écrire l'histoire de cette jeune convertie en France de l'XIe siècle, je savais que j'avais une méthode. Et on peut voir dans ces trois romans que la méthode est la même. Il y a un narrateur qui court dans ses propres livres, pour ainsi dire, avec un micro invisible pour écouter ce que ces personnages ont à dire. Et je crois que cette méthode m'est devenue quelque chose de très personnel. Oui.
Mais ça paraît presque trop beau pour être vrai. On a l'impression que les histoires viennent à vous à travers une maison, par exemple, que vous occupez. Est-ce qu'il faut être écrivain pour les voir, ces histoires, finalement ?
Il faut vouloir écrire, en tout cas. Et il faut vouloir creuser. Et je suis convaincu que chacun qui habite une maison ici à Paris, qui commence à creuser et à faire les recherches et à fouiller, vous allez trouver des histoires. Il y a toujours des vies à raconter. Ça, j'en suis convaincu. Et peut-être parce que je suis écrivain, j'ai des méthodes pour creuser. Parce qu'à un certain moment, évidemment, il faut commencer à faire des recherches. Et là, il faut un travail parfois très, très, très étendu et qui vous demande beaucoup de temps quand même.
On va en parler justement, Stéphane Hertmans, de ce travail de recherche qui est l'une de vos particularités aussi. Vous êtes toujours avec nous pour cette masterclass France Culture depuis la Bibliothèque nationale de France. Vous vous plongez dans les archives, vous rencontrez des témoins. Ce sont ni plus ni moins que des enquêtes en fait que vous menez et que vous racontez en plus dans vos livres en filigrane. Est-ce que vous travaillez en deux temps, c'est-à-dire d'abord la recherche, puis l'écriture, ou est-ce que vous commencez une écriture et vous vous dites « là, il me manque un morceau, je vais aller rechercher ». Comment vous procédez ?
Je fais les deux. Au moment que j'ai commencé à voyager, par exemple, pour retrouver le sort de cette jeune femme au XIe siècle à Rouen, je suis rendu à Rouen. C'est seulement 3 heures de voiture de Bruxelles.
Mais vous êtes allé aussi en Égypte.
Oui, oui, tout à fait.
Pour ce même roman.
Oui, 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 absolument. Et au moment que je me rendais là, sur les lieux, je me suis rendu compte que je devais noter beaucoup et prendre des notes tout le temps et des notes qui peuvent me servir. Mais au fur et à mesure que vous prenez des notes, ces notes deviennent le roman. Et j'ai choisi dans Le cœur converti de laisser voir le lecteur où j'en étais. Quand je viens à Orléans, que j'ai déjà en tête ce que je veux voir, ce que je recherche. Mais ce que je suis en train de rechercher sur ce personnage, c'est quelque chose que j'ai moi-même créé. Alors, il y a une certaine ironie du narrateur là-dedans. Hein? C'est ce que j'imagine que cette femme a subi. Et puisque de plus en plus, je m'associais avec le sort de cette femme, ce que j'imaginais et ce que je trouvais allait de pair. Et ça donne quand même une façon de raconter une histoire qui est un peu discontinue, en fragments, qui est fragmentée. Et en même temps, on sent qu'il y a un certain dynamisme. On est poussé les derniers jours de cette femme.
Et d'ailleurs, il y a des photos, des vraies photos imprimées dans le livre. On voyage aussi un petit peu avec vous. Vous parlez de ce que vous imaginez, mais finalement, en étant aussi documenté, quelle place vous laissez à l'imagination ? Pour Le cœur converti, on le comprend, effectivement, il y avait sans doute un peu des trous, entre guillemets. On ne pouvait pas savoir précisément, puisque ça se passe au XIe siècle, mais... Pour Guerre et Térébenthine, par exemple, l'histoire de votre grand-père, elle est très, très précise. Comment l'imagination s'immisce là-dedans ?
Il y a quand même une sorte de dialectique fragile entre les photos et les textes. Il y a toujours une distance un peu ironique, parce que quand vous êtes en train de lire Guerre et Térébenthine, la photo qui va vous renvoyer à ce que je viens de raconter se trouve 3 pages trop tard, par exemple. Ça tombe toujours un peu après le coup. Cela dit, mon grand maître à penser a été Sebald, qui a aussi inséré des photos.
Et pourquoi, pardon, les mettre trois pages après? C'est un jeu avec le lecteur que vous...
C'est un jeu, mais c'est un signe de... qui vous invite à méditer ce qui se passe. Et ce déclenchement entre les photos et les textes m'intéresse beaucoup. Souvent, les photos n'illustrent pas, ils ne sont pas seulement documentation. Je vous donne un exemple dans mon livre sur le SS Flamand, Une Ascension. À un certain moment, je décris l'abiseautage de la glace Gand, comme ça s'appelait, qui était de l'autre côté de la petite ruelle où j'ai passé 20 ans dans cette maison de ce nazi flamand, sans savoir.
Ou sans vouloir le voir.
J'avais entendu parler de ça, mais ça ne m'intéressait pas à l'époque. Mais les photos que j'ai insérées, de temps en temps, sont des vraies photos des archives de la famille de cet homme. Mais par exemple, l'image de la biseautage de Gand, c'est une peinture d'un peintre allemand, Anselm Kiefer, qui a peint beaucoup de grands bâtiments délabrés des nazis. Alors là, il y a une très grande ironie et j'invite le lecteur à imaginer avec moi. Et Sebald, mon grand exemple sur ce point, le poussait encore beaucoup plus loin. Il allait chercher des cartes postales sur les marchés aux puces et puis il inventait une scène dans son roman, basée sur la photo. Il inversait la chose. Et ça donne beaucoup de possibilités de faire des clins d'œil pour le lecteur, à bon entendeur, voilà, de voir ce qui se passe dans la photo et ce qui se passe dans le texte.
Ouais. Est-ce que vous auriez pu être historien, Stefan Hertmans, plutôt qu'écrivain?
Non, pas du tout. Non.
Pourquoi?
Parce que l'historien s'occupe des faits et l'écrivain s'occupe des expériences et de l'intimité et du vécu. Évidemment, je dois me baser sur les faits. Je dois faire mes recherches et je ne dois pas faire des erreurs, pas commettre des erreurs dans mes romans, parce que tout est fondé sur des réalités. Mais le moment qu'on connaît les faits, on ne connaît pas encore l'expérience, ce que ça a donné, l'angoisse des gens. Et c'est ce que je décris, par exemple, l'angoisse qu'inspirait cet homme horrible qui a vécu dans la maison que, à un certain moment, j'ai acheté à Gand. Et j'avais, à un certain moment, l'impression que je m'approchais de cet homme comme un chat s'approche d'un souris. Je voulais savoir comment il se sentait, comment était son épouse, qui était résistante, qui détestait ce que son mari faisait dans le fascisme flamand.
Et pour cela, vous êtes allé jusqu'à rencontrer longuement, à plusieurs reprises, ses enfants. Vous avez noué des liens avec eux.
J'ai encore des liens très amicaux maintenant avec la famille. Ouais. Parce qu'évidemment, pour une famille qui est encore en vie et qui doit supporter qu'un écrivain révèle toutes les atrocités que leur père a commis et les crimes qu'il a perpétrés, c'est très dur. Alors j'ai parlé longtemps avec les deux filles qu'il avait. Une a maintenant 90 ans, l'autre 86 ans. Ce sont des femmes très dignes, très fortes, qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Maintenant, on sait avec certitude que notre père a été un grand salaud. On vous remercie. Maintenant, on a une certaine tranquillité d'esprit, on le sait. Une sérénité. » Cela dit, dans Une Ascension, le jeu que je faisais avec les fêtes et l'imaginaire était encore beaucoup plus délicat, puisqu'il y avait la famille. En même temps, il ne faut pas se censurer.
Du coup, une forme de responsabilité que vous aviez, vous, en tant qu'écrivain, vous l'avez senti, ce poids?
Absolument, dans ce livre, oui. Parce que vous savez sans doute que l'extrême droite en Flandre est de nouveau bien fort. Ça nous inspire beaucoup d'angoisse. Il y a, dirons, dans le Vlaams Belang, de ces 25% qui votent pour l'extrême droite.
C'est le parti de l'extrême droite flamand, oui.
C'est horrible, 25%. Et de ces 25%, il y a quand même, je crois, 8 à 10% qui sont vraiment d'extrême droite. Le reste sont, comme chez vous, avec le FN, le Front National. Ce sont des socialistes déçus, etc., et des gens qui ne savent pas quoi faire, qui s'énervent, qui sont en colère. Ça veut dire que le populisme d'extrême droite est très métissé. Mais il y a certainement 10% qui vit toujours dans ce mensonge que les Flamands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient en fait les pauvres victimes parce que c'était des idéalistes qui voulaient se libérer de la domination des francophones, qui ne leur ont pas laissé avoir des universités, des écoles, des hautes études longtemps, etc. Voilà. Et qui se sont sentis opprimés. Mais évidemment que c'est un mensonge. Il ne faut pas trahir vos concitoyens juifs pour être un bon Flamand. Ça veut dire que ce mensonge atroce a perduré longtemps en Flandre. Et quand j'ai pensé à cette réalité, évidemment, j'ai pensé maintenant que l'extrême droite revient, c'est très important de décrire en tout détail la psychologie d'un jeune nazi. Parce que le protagoniste de mon livre, c'est un homme banal. On tombe dans ce dictum de Hannah Arendt, on voit dans cet homme la banalité du mal. Il n'y a pas de réponse morale, il n'y a pas de réponse d'une certaine éthique. Non, il y a seulement une sorte de vanité, d'une sorte de manque d'empathie dans cet homme. Et j'ai voulu démontrer tout cela dans un roman qui parle d'un âge révolu, mais qui parle aussi bien du contemporain. Comme, évidemment aussi, dans Le cœur converti, je ne parle pas seulement de cette fille du XIe siècle, je parle des réfugiés qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Et le moment que la jeune femme dans Le cœur converti s'enfuit de Marseille à Gênes et puis à Alexandrie, elle fait juste le contraire des réfugiés d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans un roman, soi-disant historisant, il y a toujours le contemporain, évidemment.
Stéphane Hertmans, revenant un peu à votre processus créatif, on a parlé de tout ce travail de recherche. Au moment où vous entrez en écriture, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous vous isolez? Est-ce que vous avez besoin de silence? Est-ce que vous avez une discipline d'écriture, des horaires?
Ça varie énormément. Maintenant, je suis de nouveau dans une période que je ne sais pas trop où la mayonnaise va prendre. Je ne sais pas encore. Je suis en train d'essayer des choses. Voilà. Et au début, c'est toujours à tâtons. Mais à un certain moment, il y a une sorte de dynamisme qui commence à se développer. Et c'est comme si le projet me montre la direction. Et à la fin, évidemment, la dernière année d'un projet comme un roman. Normalement, je travaille environ 4 ans pour un roman. La dernière année, je travaille 12 à 16 heures par jour parce que à ce moment-là, ça devient obsédant. Et vous voyez que toutes les ficelles que vous avez tendues sont en train de se réunir. Et c'est une sorte de dynamisme qui est très fascinant. Mais j'ai aussi bien des périodes que je suis en train de chercher, que je ne sais pas trop, et voilà, que je ne peux pas prédire. Et je ne suis pas l'écrivain qui se met chaque matin à 9 heures derrière sa table. Il n'y a rien qui provient de ça, que de la médiocrité. Et je le sens au moment que la langue commence à me parler, parce que je suis convaincu que ce n'est pas nous qui parlons la langue, c'est la langue qui nous parle. Et au moment que je sens qu'il y a une certaine musique intérieure, je sais que la grammaire et les syntaxes seront bien en ordre.
C'est là où on retrouve peut-être l'âme du poète, qui est toujours là?
Peut-être oui. Oui, je crois que même en prosateur, je suis quand même un poète, oui, parce qu'il y a beaucoup de soins dans mes romans pour les détails, pour les sons, pour les odeurs, pour les impressions physiques, etc. et pour une certaine poésie, une façon de voir le monde. Ouais.
Est-ce que vous pouvez mener plusieurs projets de front? On parlait du théâtre tout à l'heure, vous répondez à des commandes. Est-ce que parfois vous avez 2, 3 fers au feu?
Oui, oui, je ne me laisse pas bloquer. Le moment que quelque chose ne marche pas trop bien, je fais quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose à faire. Et heureusement que j'ai aussi la poésie. Si je comprends bien, dans la francophonie, un poète est un poète et un prosateur est un prosateur plutôt. Dans la néerlandophonie, on trouve pas mal d'écrivains qui font les trois genres, aisément. Un des plus grands en Flandre, Hugo Claus, que vous connaissez peut-être, a toujours été un de nos plus grands poètes, mais il a écrit beaucoup de théâtre, et il a écrit une vingtaine de romans, ou plus même. Ça veut dire que les genres ne s'accordent pas avec un certain rôle dans le champ social. On est d'abord auteur, et l'auteur peut choisir ce qu'il fait. Et ça dépend aussi chez moi. Il y a des moments que j'ai vraiment envie d'écrire de la poésie. Je suis en train d'écrire un long poème que j'espère va devenir jusqu'à 100 pages sur une femme très impressionnante que j'ai connue, qui était ma voisine à Bruxelles.
Encore en proximité avec vous, avec votre vie?
Oui, oui, là, vous touchez sur un point qui est bien important. Et là, peut-être je reviens sur votre expression que ça provient du réel. Oui, ça provient du réel, mais évidemment, je fais de cette femme quelqu'un de complètement différent. Les 10 premières pages, c'est plutôt réaliste. Et puis, ça s'ouvre. Et il y a un personnage qui se dresse devant vous. Et ce personnage m'inspire des choses qui ont été pas nécessairement dans la vie de cette femme. Parce que je vais évidemment décrire la vie de cette femme dans ce poème comme un grand témoin du XXe siècle et tout ce qui s'est passé. Mais à travers les yeux d'une femme, ce qui est tout à fait différent.
Le temps long semble vous être indispensable pour écrire. Vous dites 4, 5 ans. À la fin du cœur converti, il y a même ce petit clin d'œil. Si on calcule la date de début et la date de fin d'écriture, il s'écoule 22 ans. On imagine que vous n'avez pas écrit pendant 22 ans, mais comment un écrivain peut-il travailler comme ça sur le temps long ?
Oui, cette date à la fin du cœur converti est un peu ironique parce que 94 était le moment qu'on a acheté la maison. Et là, j'ai commencé en fait à retrouver cette pauvre convertie, cette prosélyte de mon petit village en Provence, sans le savoir. Et je crois que c'était déjà avant 2000 qu'un de mes voisins m'a dit « Mais vous savez, il y a une histoire d'une juive ici au Moyen-Âge dans notre village. » Et j'avais entendu parler, mais bon, j'étais occupé par d'autres choses. Par exemple, j'étais encore en train d'écrire, pas encore même, le
Guerrette
et Levantine. Bien avant, j'étais dans l'enseignement encore. Voilà, j'avais pas le temps, mais j'avais entendu. Et à un certain moment, un voisin m'a donné une copie d'un article sur cette prosélyte du XIe siècle, parce que le grand savant Norman Gorb à Chicago avait élucidé un des milliers de documents qu'on a retrouvés au Caire, en hébreu. Et un de ces documents, presque 500 000 de documents qu'on a retrouvés dans la synagogue Ben Ezra au Caire, et un de ces documents parle de cette femme dans notre tout petit village. Voilà. Et ça me fascinait, je savais, je veux à un certain moment commencer à écrire sur cette femme. Et puis, ça mijote dans ma tête, pour ainsi dire. Et ça traîne et je développe des pensées. Je commence à lire et acheter des bouquins, d'abord sur les marchés aux puces que je trouve, ce qui tombe dans ma main. Et de plus en plus, ça prend forme.
Mais à ce moment-là, vous savez déjà que ce sera un livre ou c'est une forme de test ?
Non, j'avais déjà cette intention. Je voulais écrire la vie de cette femme. Parce que dans tous ces documents, les noms des hommes sont bien nommés. Mais le nom de la femme n'est pas nommé. Et je voulais absolument écrire une sorte de kaddish pour cette femme, nommer son nom, inventer son nom.
Nom qu'elle change
d'ailleurs.
Elle existe
de nouveau.
En changeant
elle change
de religion,
beaucoup de
elle change de nom.
Voilà.
Oui.
Ah, elle était native de Rouen, qui était à cette époque-là très proche de la Flandre, parce que la Flandre était plus large. Ce qui est la Flandre française maintenant était la Flandre flamande à cette époque. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de contacts, les gens bien aisés avaient des contacts avec les comtes de Flandre et leur entourage, etc. Et voilà que son père était, j'en suis certain pour 90%, était un viking. Elle a entendu le danois dans sa famille. Et puis, elle est une convertie et elle apprend de son amant, probablement l'araméen, parce que les juifs en France à cette époque parlaient uniquement l'araméen. Et voilà qu'elle se rend au moment que son mari a été tuée dans la synagogue à Monieu, dans mon village. Elle se rend vers le Caire et elle est en contact avec l'islam, avec l'arabe. Vous voyez ce périple énorme de cette femme au XIe siècle.
Alors la question de la langue, justement, puisque vous l'abordez, Stéphane Hertmans, vous écrivez en néerlandais, mais on l'entend, vous êtes parfaitement francophone. Est-ce que la question s'est posée à vous, un moment, d'écrire en néerlandais ou en français ?
Non, pas du tout. Non, je parle français, mais je parle français comme quelqu'un qui n'est pas francophone, je me rends compte. Que j'ai appris à parler un peu plus le français est à cause du fait que depuis 20 ans, on vit dans les alentours de Bruxelles, où il y a ce paradoxe un peu ironique que les néerlandophones en Belgique, et ça étonne toujours encore un public français, 63% de la Belgique n'est pas francophone. La majorité démocratique n'est pas francophone. Mais quand ils se rendent dans leur capitale, on ne leur comprend pas. Et ça, c'est quelque chose de très drôle, évidemment, ce qui inspire toujours le fait qu'on se rend compte que même si on est majoritaire dans son pays, on est minoritaire dans sa capitale. Pour moi, c'est un avantage. Qu'on me dise, je ne comprends pas le flamand, bon, ok, moi je parle français, moi je peux faire le pont. En même temps, comme vous savez, Gilles Deleuze a écrit des choses merveilleuses sur la langue minoritaire qui appartient à une langue minoritaire, se heurte à ce que Derrida nommait le monolinguisme de l'autre, puisque l'autre appartient à une culture beaucoup plus grande et large. Il est obligé de passer le pont et de devenir polyglotte. Alors, appartenir à une langue minoritaire est un avantage culturel dans l'Europe d'aujourd'hui. On est obligé de parler l'anglais, je parle allemand, je parle français, mais le néerlandais est ma langue maternelle et je pouvais absolument pas m'imaginer d'écrire que ce soit en allemand ou en anglais ou en français. Il faut qu'on écrit pour toutes les moindres nuances qu'il faut avoir pour décrire une simple scène. Il faut avoir la langue maternelle, la langue de la jeunesse, de l'enfance. Certainement, si on veut écrire d'une certaine façon poétique, il faut que vous êtes renoué toujours avec votre identité la plus profonde. Ouais.
Et lorsque vos écrits sont traduits en français, ce n'est pas vous qui le faites, vous avez des traducteurs, traduisent vos romans, un autre traducteur pour les poèmes. Est-ce que vous relisez en français ?
Je coopère intensément avec mes traducteurs qui, à un certain moment, vers la fin, m'envoient des pages et des pages avec des questions. Et j'adore les questions des traducteurs parce qu'ils sont les meilleurs lecteurs. Puisqu'ils travaillent toujours avec leur dictionnaire, ils se rendent compte que peut-être il y a dans mon irlandais encore une quatrième ou cinquième signification qui est un peu cachée ou refoulée. Et ils me rendent toujours conscient du fait qu'il y a encore une couche et encore une couche dans le texte. Et c'est eux qui découvrent, qui me demandent « mais qu'est-ce que je dois faire avec ce mot ?» Et cette blague est intraduisible parce que c'est une blague qui se joue dans votre langue. Il faut trouver une autre solution, etc. Et j'adore ce travail avec les traducteurs, absolument.
Et vous ne le faites qu'avec vos traducteurs français, mais ou avec d'autres, l'anglais, l'allemand, puisque vous pratiquez
Oui, absolument. Je le fais aussi avec mes traducteurs anglais et allemand. Et même ma traductrice italienne m'envoie des questions. Et là, on écrit en français ou en anglais et elle m'explique les problèmes qu'elle a en italien. Je parle un peu rudimentaire l'italien, je peux comprendre. Et j'ai toujours adoré parce que ça me donne une nouvelle confrontation à mes propres textes à travers le filtre d'une autre langue.
Est-ce que vous y retrouvez votre musicalité ?
Ça dépend. Par exemple, le plus difficile, évidemment, ça parle de soi, c'est de traduire de la poésie. Seulement pour vous dire, si on a un certain rime dans un poème, et moi j'écris slaapkamer, ou leesgenoot. Slaapkamer, en français, c'est la chambre à coucher. Ça détruit mon poème. Leesgenoot, c'est le plaisir de lire. Le néerlandais est une langue germanique très concentrée. On peut composer des mots, de beaucoup d'éléments, et en français, il faut expliciter la composition des concepts. Ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait différent. Heureusement, j'ai eu un des meilleurs traducteurs en Belgique, qui s'appelle Philippe Noble pour cela, tandis que ma traductrice pour mes romans, c'est Isabelle Rosselin. Ce sont deux des meilleurs. Et pour la poésie, évidemment, c'était vraiment à un certain moment très, très, très difficile et très intense. Et je me rappelle que certains après-midi, je me rendais chez le traducteur et on travaillait 5 heures pour réviser 3 poèmes, 3 pages.
Mais est-ce que vous avez la sensation de lire la poésie d'un autre quand vous la lisez en français, par exemple ?
C'est bien ma poésie. Il a vraiment réussi un miracle, je trouve. C'est bien ma poésie, mais ce n'est pas tout à fait ma musique. Mais puisque je suis un poète qui travaille beaucoup avec des métaphores, des allégories, des images, je retrouve évidemment mon monde. Mais seulement pour vous dire, je fais pas mal de concerts avec des musiciens de jazz. Et quand je fais en néerlandais, je sais exactement où se trouve le rythme, où moi je peux, pour ainsi dire, glisser entre deux portes dans le rythme et commencer. Quand je le fais en anglais ou en français, les musiciens sont perdus et moi aussi bien. Il faut recommencer tout le travail parce qu'il y a une autre musique. C'est ce que je trouve fascinant, mais ça ne va pas de soi.
Donc vous qui avez grandi avec ces deux langues, comment ça se passe avec vos influences littéraires ? Est-ce qu'elles vont plutôt du côté francophone, comme on vous l'a appris à l'école, néerlandophone, allemand ou autre ? Ou est-ce que c'est un joyeux mélange de tout cela ?
C'est un joyeux mélange, absolument. D'un côté, évidemment, toute la grande littérature a été traduite en néerlandais. Et ce que j'ai constaté, c'est par exemple, j'ai lu, seulement pour donner cet exemple très connu, À la recherche du temps perdu, dans cette belle édition de la Pléiade. J'avais 22 ans et on devait se rendre à Lille pour trouver le Furet du Nord et là d'acheter les tomes de Pléiade. Et je l'ai lu en français, qui à cette époque-là était très difficile pour moi. J'ai lu la plupart, pour 80%, j'ai lu la recherche, mais ça ne m'influence pas dans mon style à moi. Et le moment, quand j'ai commencé à lire la traduction de Proust, là, je me suis rendu compte des détails dans son syntaxe, puisque, évidemment, aussi en néerlandais, ça donne un syntaxe très particulier, qui n'est pas un syntaxe qui a la logique germanique, pour ainsi dire. C'est tout à fait différent. Et à ce moment-là, à travers la traduction, ça commence à vous influencer. De l'autre côté, puisque le néerlandais appartient au monde germanique, j'ai été beaucoup influencé par les poètes allemands d'expressionnisme. On a le bonheur de ne pas avoir une académie française. Il y a beaucoup plus de liberté pour un poète de tordre la langue, de ne pas se laisser séduire par une élégance quelconque, mais de vraiment essayer de se rapprocher du vrai et du cru de la langue. Et ça, j'ai appris en lisant les Allemands, par exemple. Évidemment, si on veut voir le grand art du well-written novel des Anglais, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le moment que j'ai appris à connaître la poésie de Borges, par exemple, ça vous change. Cela dit, je reviens à cette notion de la langue minoritaire. Il y a beaucoup que j'ai essayé de lire dans la langue originale, souvent aussi avec un dictionnaire à côté, et ça vous enrichit comme écrivain, énormément. Ouais.
Ça vous nourrit, finalement, étrangères vous nourrissent aussi.
Oui, absolument. Ouais.
On parlait tout à l'heure donc, de ces personnages de vos romans qui vous sont proches, évidemment votre grand-père, dans Guerre et Térébenthine, et ceux dont vous avez occupé la maison, ceux qui sont passés par votre village de vacances. Est-ce que vous avez du mal à les lâcher quand vous terminez votre livre? Autrement dit, est-ce que vous avez des difficultés à finir votre roman parce que vous aimeriez les retenir? Comme parfois nous, lecteurs, on a envie de rester encore un peu avec les personnages d'un roman.
Avec mon grand-père dans Guerre et Térébenthine, j'avais le sentiment d'avoir fini une tâche très importante, même une certaine culpabilité que j'avais sentie de ne jamais avoir lu ces cahiers plus tôt, parce que je n'avais pas le temps, et que là, il y avait une sorte de restitution. Avec le cœur converti, comme chaque écrivain, je tombais presque amoureux de mon personnage, cette femme que j'ai créée, qui a existé, mais de laquelle on ne sait pas trop bien. Et cette femme m'a collé longtemps. Et puisque j'ai décrit toute la misère de cette femme en détail, ça m'a changé étant homme. Quand je viens dans un parking maintenant à minuit, je me regarde derrière moi parce que je me rends compte ce que c'est pour une femme. Et que c'est une planète tout à fait différente pour une femme d'entrer un parking à minuit que pour un homme. Ce sont des résultats que j'ai sentis après avoir fini ce roman. Ça veut dire que cette femme que j'ai créée moi-même, en fait, basée sur des documents, est entrée en moi. Et elle ne me quitte plus. Et évidemment, le protagoniste du dernier roman, Une Ascension, puisque c'était un nazi, un homme détestable, j'avais un sentiment de soulagement que je pouvais terminer ce livre. Mais en même temps, puisque son épouse est pour moi la réponse humanitaire et humaniste envers cet homme, en fait, son épouse est le grand personnage du roman. C'est Minj.
Les femmes sont souvent les grands personnages de vos romans, d'ailleurs.
Oui, là, je dois vous dire que j'ai fait ma thèse doctorat sur Antigone. Et Antigone m'accompagne déjà toute ma vie, puisque cette fille dit non à la loi patriarcale et tout succombe, tout tombe. Thèse, pour ainsi dire, en ruine, parce qu'une jeune fille dit non. Cela dit, toute cette affaire du monde patriarcal vers le monde matriarcal dans les tragédies grecques m'ont fortement inspiré aussi quant aux relations des hommes et des femmes. Et je crois que dans chaque de mes romans, on peut trouver toujours une sorte d'Antigone.
Vous avez écrit Antigone à Molenbeek.
Antigone à Molenbeek, évidemment. Antigone était ma façon à moi de décrire la misère des musulmans à Molenbeek, qui étaient des gens bien intentionnés et qui étaient aussi bien des victimes et qui subissaient encore beaucoup plus de racisme après coup. Tandis que c'était souvent des gens, il y a un exemple que je trouve très 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 émouvant, c'est Mohamed El-Bachiri, un jeune musulman qui a publié un livre parce que sa femme était tuée aussi dans les attentats à Zaventem, enfin en fait à Malbec. Sa femme était une musulmane qui était infirmière, qui allait faire son boulot. Et il a écrit un livre après coup qui s'appelle « Le djihad de l'amour ». Et la dignité de cet homme m'a beaucoup ému. Et j'ai pensé à lui, à tous ces gens qui ont subi le même sort à Molenbeek. Et puis je me suis imaginé, comme Sophocle le fait avec Antigone, imaginez-vous qu'une jeune fille revendique le body bag dans lequel se trouve son frère, qui s'est laissé éclater. Comment est-ce qu'une jeune Antigone à Molenbeek pouvait se comporter de nos jours? Et je laisse voir dans ce texte de théâtre comment elle se radicalise aussi bien, parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un qui écoute vraiment, qui lui comprend. Et à la fin, elle essaie de voler son corps du congélateur où il est stocké. Et elle est emprisonnée. Et là, j'ai suivi la logique de Sophocle, de laisser voir qu'est-ce qui se passe avec une fille qui, par amour tribal, pour ainsi dire, ne veut pas oublier à la loi froide, objective, et qui veut réagir avec l'intimité, la subjectivité et son émotionnalité. Qu'est-ce qui se passe quand ça se confronte? C'est deux façons de voir le monde.
Vous dites « mes personnages entrent en moi ». Vous diriez que ce sont des fantômes, quelque part, qui vous hantent. Il y a aussi la notion de maison qui est très présente dans votre œuvre. Vous aimez ça, les maisons hantées?
Je crois que j'ai toujours eu... Je le décris quelque part dans une ascension. Je pense que quand j'étais gosse, dans les années 50, et qu'on se promenait dans les rues, il y avait encore des ruines. Et que j'ai senti l'odeur des ruines humides à Gand. Et chaque moment que j'entre une maison un peu délabrée, où il y a une certaine humidité, et le papier sur les murs est en train de se... Que là, il y a quelque chose de très poétique pour moi qui s'ouvre. Parce que là, j'ai toujours l'impression que j'entre en contact avec des vies antérieures. Et j'ai toujours eu ce faible pour les anciennes maisons. Et je crois que c'est à cause de cela que les maisons et le locus... Le lieu est pour moi très important d'écrire le locus. Puis j'ai pensé, évidemment, pour une ascension, d'inventer le fait que je fais une ascension avec le notaire, que l'aspirant acheteur va des caves jusqu'au grenier, comme Dante et Virgile dans la Divina Commedia. C'est une sorte de pastiche de la Divina Commedia. Mais évidemment, sur le grenier, il ne trouve pas le paradis. Il ne trouve que de la poussière. Et peut-être encore des débris de la buse de Hitler qui a été cassée.
Et l'inspiration.
Et l'inspiration aussi, bien. Et voilà que ce côté physique est pour moi très important. On le voit aussi dans Le Cœur converti, comme je suis amoureux de ce pays rude, ce pays désert en hiver. C'est un pays très, très rude.
Le Vaucluse.
Le Vaucluse, c'est très dur, la vie des montagnards. Et... c'est quelque chose de tout à fait différent que la Provence d'en bas. Et c'est exactement cet aspect de désolation, de solitude qui m'a beaucoup inspiré, oui.
Dans Poétique du silence, qui rassemble 4 de vos essais, vous vous interrogez sur ces poètes qui se taisent, qui renoncent à l'écriture, impuissantes à décrire la vie. Est-ce que c'est une sensation qui vous a déjà habité, Stéphane Hertmans?
Je crois que chacun qui écrit a toujours cette angoisse un peu refoulée qu'à un certain moment, ça va se terminer, qu'on n'aura plus rien à dire. Puisque écrire, évidemment, est une façon d'éviter le vide de l'existence. On se donne un projet pour passer la vie.
Beau projet.
Je crois que c'est un des plus beaux projets qu'on peut avoir, c'est de devenir artiste, de s'exprimer. Parce que l'expression, évidemment, a quelque chose comme une consolation. Et j'ai été éduqué par des parents qui étaient des braves catholiques flamands, très sympathiques, des gens très doux. Et à un certain moment, on va à l'université, on commence à lire Nietzsche et Schopenhauer dans le texte, et votre foi vous quitte. Et là reste quelque chose comme un vide, parce que vous ne pouvez plus le croire. Et à ce moment-là, il faut trouver quelque chose pour vous-même, pour vous instaurer un Dieu de votre propre vie, qui est votre vérité. Mais en même temps, j'ai toujours été fasciné par le très grand poète allemand Friedrich Hölderlin, qui m'a vraiment formé un peu. Et comme vous savez peut-être, à ses 35 ans, il est entré dans une sorte de... c'est pas de la folie, mais quand même, ça y ressemble. Il est revenu de Bordeaux, où il était instituteur. Et quand il est revenu, son grand amour, qui était sa maîtresse cachée, c'était une femme mariée, Suzette Gontard, était décédée. Et à ce moment-là, sa raison a commencé à lui quitter. Et il a encore écrit pendant ces 35 ans qu'il a été hébergé par un menuisier dans une petite ville en Allemagne. Et le sort tragique de cet homme, qui avait un génie comme Schiller, il était un des plus grands comme Goethe, Hölderlin, Schiller et Goethe sont les trois les plus grands de la poésie allemande. Et cette tragédie de cet homme, qui à un certain moment a perdu raison, et quand même écrivait des poèmes encore, qui, notamment, 100 ans avant l'expressionnisme, ont déjà des traits de l'expressionnisme. Cela dit, cet homme m'a toujours fasciné. Et à cause de ce cas tragique de Hölderlin, j'ai commencé à m'intéresser à la folie de Nietzsche, à la tragédie de Georg Trakl, à la tragédie de encore quelqu'un qui est entré dans la folie, Reinhold Lenz. Et je me suis demandé pourquoi tous ces poètes et philosophes allemands sont entrés dans une sorte de déraison. Comment ça se produit? Et je crois que là, ça a à faire avec le genre d'idéalisme des Allemands, qui est un idéalisme qui est beaucoup trop élevé, trop abstrait presque, et qui peut crever un esprit. Et puisqu'il s'agit de la poésie, et le nerf de la guerre de la poésie, l'étrangement dans la langue propre, de perdre la langue, de perdre raison, et quand même de continuer de parler, ça parle de quoi? Là, on entre presque dans la psychanalyse quand on s'approche de cette poète. Et voilà que le mutisme de ces grands poètes m'a évidemment fasciné et un des essais dans ce beau recueil que Gallimard a publié, il s'agit de ce mutisme des grands poètes.
Qui pourrait vous arriver? Est-ce que c'est une crainte que vous avez?
C'est une crainte que si on doit s'arrêter d'écrire, évidemment j'ai toujours la musique, je me dis, et j'ai encore la lecture, parce que chaque écrivain est un grand lecteur, évidemment. Mais le côté guérissant que représente l'écriture ne va jamais me quitter. Peut-être même si je m'arrête de publier, je vais toujours faire des journaux de bord. Voilà.
Parce que peut-être que le fait d'écrire, finalement, vous aide à trouver les mots. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous expliquiez tout à l'heure la mécanique.
Encore plus, je commence à écrire une note dans mes journaux de bord et je me rends compte que je pensais autre chose de ce que je pensais que je pensais. Vous me suivez? Le fait que vous commencez à écrire change vos pensées. J'ai aussi été toujours un très grand admirateur des cahiers de Paul Valéry, par exemple. Ça se sent dans les cahiers de Paul Valéry qui commence à écrire quelque chose et qui change d'avis parce qu'il écrit. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux dans l'écriture. Voilà.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur cette crainte du silence. Alors, je ne sais pas si on peut parler de page blanche parce que c'est deux sujets sans doute différents. Mais est-ce que ce silence, un jour, pourrait être le vôtre?
J'ai répondu partiellement parce que je vous ai dit que je voudrais en tout cas continuer d'écrire le journal de bord. S'il n'y a plus rien de créatif, pour ainsi dire, qui sort, que le côté méditatif me reste. Et que je ne supporte évidemment pas l'écran vide. Ce n'est pas la page de nos jours, c'est l'écran vide. Mais puisque j'ai toujours trouvé des moyens d'éviter le blocus, j'en suis certain que je trouvais toujours ce moyen. Mais c'est certain, si j'ai une angoisse, c'est que la raison peut vous quitter comme ces poètes-là et que vous seriez dans une sorte, par exemple, l'Alzheimer ou quoi que ce soit, qui vous prive de votre raison. Je crois que c'est là la grande crainte. Mais je ne crains pas de tomber sans mots, non.
Dans ces masterclass de France Culture, Stéphane Hertmans, souvent les écrivains disent qu'ils ont mis du temps à se qualifier comme écrivain. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que ça ne vous a jamais posé de problème quand on vous pose la question de votre activité de répondre « je suis écrivain » même si vous avez mis, vous l'avez dit tout à l'heure, 10 ans avant d'être publié?
Je ne dis pas facilement « je suis écrivain » parce que ça c'est une sorte de type. Je dirais toujours « j'écris des livres ». Je passe ma vie à écrire. Ce qui est, je trouve, quand même une nuance très importante. Je passe ma vie à écrire et à publier des livres et j'entre dans le public domaine. J'écris même pour les journaux, etc. J'ai mes points de vue dans les journaux, si je veux, étant citoyen concerné, voilà. Mais être écrivain, cela me rappelle toujours le type orgueilleux qui pose en écrivain. Et ça ne me parle pas parce que je pense toujours celui qui se vante trop d'être écrivain va écrire d'une façon banale. Il faut jamais se vanter de ce qu'on a écrit, jamais se vanter de ce qu'on a publié, parce qu'il y a toujours la suivante page blanche. Et si vous commencez à être orgueilleux, votre inspiration va vous quitter. Là, je suis peut-être superstitieux. Il faut pas trop assumer ce type d'écrivain. Il faut assumer qu'on écrit.
Même quand on a, comme vous, alors j'ai pas calculé, 50 ans d'écriture derrière, 60 ouais. peut-être. Ouais. Même quand on a cette expérience.
Oui, mais ça ne vous donne aucune certitude pour ce qui est devant vous. Et je ne peux pas relire mes livres. C'est impossible pour moi de relire ce que j'ai derrière moi. Je regarde toujours devant moi. Et ça ne me donne aucune garantie pour ce qui est devant moi.
Alors justement, je voulais vous poser cette dernière question. Je ne suis pas sûre que vous pourrez y répondre. Si on lit « Sous un ciel d'airain » qui rassemble vos poésies de 1975 à 2018, on voit effectivement, puisque c'est de façon chronologique, la progression de votre écriture, de votre poésie. Quel regard le poète d'aujourd'hui porte-t-il sur celui de 1975? Peut-être ne l'avez-vous pas relu, si j'en crois ce que vous venez de me dire.
J'ai dû le relire. Parce qu'il y avait cette anthologie, et puisque j'ai fait le choix ensemble avec le traducteur, d'abord j'ai laissé choisir le traducteur en toute liberté, et puis je lui ai dit ce que je voulais ajouter. Voilà. Et puisqu'on savait qu'on avait la liberté de choisir environ 200 poèmes, voilà, on a fait ce choix. Et je dois dire que je suis jaloux du poète de 30 ans que j'étais, parce qu'il avait tellement grande gueule. Il était libre, il était jeune, il osait beaucoup. Et il avait du culot. Et quand je vois ce que j'ai écrit, quand, entre mes 30 et mes 50 ans, c'est énorme. C'est plus de 800 pages de poésie. Et ça coulait de moi. J'ai toujours, c'est mon âme qui chiait, quoi. Je le faisais sans me rendre compte que j'étais en train d'écrire des poèmes. Je le faisais entre-temps quand j'étais en train d'écrire un roman. Il y avait quelque chose pour un poème que je le notais. Et après un an, je trouvais 60 débris, 60 coquilles dans un tiroir. Je disais, bon, j'ai presque un volume de poèmes. Et à ce moment-là, je commençais à les retravailler. Ça veut dire que cette liberté du jeune poète, ça, j'ai relu et je me disais, bon, on est beaucoup plus libre quand on est jeune parce qu'on se ne réalise pas autant que quand on a mon âge. Ça veut dire peut-être que je suis devenu un peu plus prudent, ça se peut. Et pour la poésie, il faut être très conscient et très lucide de ce qu'on fait. Et en même temps, on doit avoir cette liberté et cette audace. Et ça, c'est une sorte de balance délicate entre l'audace, l'inspiration et ce que vous voulez dire, ce que vous voulez passer par les mots. Et voilà que je suis où je suis. Et peut-être, étant un vieil homme, je vais écrire quelque chose de très révolutionnaire, ça se peut. Hein.
Plutôt roman, plutôt poème, plutôt théâtre, essai.
Je dois dire que parce que le théâtre a toujours été écrit en commande, là, j'ai toujours été le plus libre. C'est un paradoxe, mais c'était ainsi. Et puis la poésie. La prose, oui, je veux écrire un roman maintenant qui n'est pas fondé sur des faits historiques, etc. Je veux entrer de nouveau dans la fiction pure pour retrouver un peu cette liberté qui m'a manqué quand même à certains moments dans cette trilogie de ces trois romans. Parce que je devais toujours faire recours aux faits et puis adapter votre imagination à ce que vous savez. Ce qui est beaucoup plus difficile que l'inspiration libre. Et je me languis pour cette liberté, ouais. Et je pense que je vais écrire seulement de nouveau avec une certaine impulsion et une liberté pour un dernier roman, peut-être. On verra bien.
Cette liberté, c'est vraiment un mot que vous avez prononcé à de nombreuses reprises pendant cet entretien, Stéphane Hertmans. C'est vraiment capital, peut-être la raison pour laquelle vous êtes écrivain, même si je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise ainsi aujourd'hui.
Oui, peut-être. J'avais l'impression, quand j'ai quitté ma maison paternelle, que j'ai conquis ma liberté en écrivant. Ouais. Que c'était la façon de me déchirer de mes racines et de devenir quelqu'un de tout à fait différent et d'autonome. Ça veut dire que il faut ajouter à la notion de liberté le désir de devenir quelqu'un d'autonome, tandis qu'on sait que dans le monde, on est toujours hétéronome aussi bien. On dépend toujours des autres, on dépend des circonstances, on dépend de sa profession, de ses amours. Mais en même temps, on cherche une façon d'être autonome dans le monde en écrivant. Ouais.
Et ce métier d'écrivain est idéal pour cela?
Je crois bien, oui. Et ça m'a vraiment, je le dis maintenant pour la dernière fois, j'espère, mais ça m'a libéré de beaucoup de frustrations, d'angoisse, etc. Ouais.
Merci beaucoup, Stéphane Hertmans. Merci de vous être prêté à cet exercice de la masterclass sur France Culture et de nous avoir livré quelques-uns de vos secrets de fabrication. Merci infiniment.
Merci.
C'était la masterclass de Stéphane Hertmans avec Cécile Bidot, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Attachée de production Corinne Amar, coordination Christine Bernard, prise de son Virginie Lorda et Benjamin Perru, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Alexandra Malka.